Audiocité a le plaisir de vous présenter Sganarelle ou le cocu imaginaire de Molière. Dans le rôle de Gorgibus, bourgeois de Paris, et de Gros René, valet de Lélie, Christian Martin. Dans le rôle de Sganarelle, bourgeois de Paris et cocu imaginaire, Christophe. Dans le rôle de Vilebrequin, Jacques. Dans le rôle de la suivante de Célie, Joanne. Dans le rôle de Célie, fille de Gorgibus, et de la femme de Sganarelle, Cazerozero. Dans le rôle de Lélie, amant de Célie, Fred. Un grand merci à tous les participants qui ont bien voulu tenter cette expérience. La scène se déroule à Paris. Scène première. Gorgibus, Célie, sa suivante. Célie sortant tout éplorée et son père la suivant.
Ah, n'espérez jamais que mon cœur y consente.
Que marmottez-vous là, petite impertinente? Vous prétendez choquer ce que j'ai résolu? Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu. Et par cette raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle? Qui, de nous deux à l'autre, a droit de faire loi, à votre avis? Qui mieux, ou de vous, ou de moi, ô sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par la corbleu, gardez les chauffés trop habiles. Vous pourriez éprouver sans beaucoup de longueur si mon bras s'est encore montré quelque vigueur. Votre plus court sera Madame la Mutine d'accepter sans façon l'époux qu'on vous destine. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est, et dois auparavant consulter, s'il vous plaît. Informé du grand bien qui lui tombe en partage, dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux, ayant 20 000 bons ducats, pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appât? Allez, tel qu'il puisse être avec que cette somme, je vous suis caution qu'il est très honnête homme.
Hélas!
Hélas! Eh bien, hélas! Que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici! Eh! Que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter hélas de belle sorte! Voilà, voilà le fruit de ces empressements qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans. De quolibets d'amour votre tête remplie, et vous parlez de Dieu bien moins que de Lily. Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. Lisez-moi comme il faut au lieu de ces sonnettes, les quatrains de Pibrac et les doctes tablettes du conseiller Mathieu, ouvrage de valeur et plein de beaux dictons à réciter par cœur. La guide des pêcheurs est encore un bon livre. C'est là, en peu de temps, on apprend à bien vivre. Et si vous n'aviez lu que ces moralités, vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés.
Que prétendez-vous donc, mon père, que j'oublie la constante amitié que je dois à Lélie? J'aurais tort si sans vous je disposais de moi, mais vous-même, à vos voeux engageâtres ma foi.
Lui fut-elle engagée encore davantage, un autre est survenu dont le bien en dégage. Lily est fort bien fait, mais apprend qu'il n'est rien qui ne doive céder au soin d'avoir du bien, que l'or donne au plus laid certains charmes pour plaire, et que sans lui, le reste est une triste affaire. Valère, je crois bien, n'est pas de toi chéri, mais s'il ne naît l'amant, il le sera mari. Plus qu'on ne le croit, ce nom d'époux engage, et l'amour est souvent un fruit du mariage. Mais suis-je bien fat de vouloir raisonner, ou de droit absolu j'ai pouvoir d'ordonner? Trêve donc, je vous prie, à vos impertinences, que je n'entends plus vos sottes de léance. Ce gendre doit venir vous visiter ce soir, manquer un peu, manquer à le bien recevoir. Si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je ne veux pas en dire davantage.
Scène 2. Célie en compagnie de sa suivante.
Quoi, refuser, madame, avec cette rigueur, ce que tant d'autres gens voudraient de tout leur cœur? À des offres d'hymen, répondre par des larmes, et tarder tant à dire un oui si plein de charme. Hélas, que ne veut-on aussi me marier? Ce ne serait pas moi qui se ferais prier. Et loin qu'un pareil oui me donne de la peine, croyez que j'en dirais bien vite une douzaine. Le précepteur qui fait répéter la leçon à votre jeune frère a fort bonne raison. Lorsque nous discurons des choses de la terre, il dit que la femelle est ainsi que le lierre, qui croit beau tant qu'à l'art où il se tient bien serré, et ne profite point s'il en est séparé. Il n'est rien de plus vrai, ma très chère maîtresse, et je l'éprouve en moi, chétive pécheresse. Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin, mais j'avais, lui vivant, le teint d'un chérubin, l'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente, et je suis maintenant ma commère dolente. Pendant cet heureux temps, passé comme un éclair, je me couchais sans feu dans le fort de l'hiver. Sécher même les draps me semblait ridicule. Et je tremble à présent dedans la canicule. Enfin, il n'est rien tel, madame, croyez-moi, que d'avoir un mari la nuit auprès de soi. Ne fût-ce que pour l'heure d'avoir qui vous salue d'un « Dieu vous soit en aide » alors qu'on éternue.
Peux-tu me conseiller de commettre un forfait, d'abandonner Lélie et prendre ce mal fait?
Votre Lélie aussi n'est ma foi qu'une bête, puisque si hors de temps son voyage l'arrête. Et la grande longueur de son éloignement me le fait soupçonner de quelque changement.
Célie montre à sa suivante le portrait de Lélie.
Ah ! Ne m'accable point par ce triste présage ! Vois attentivement les traits de ce visage. Ils jurent à mon cœur d'éternelles ardeurs. Je veux croire, après tout, qu'ils ne sont pas menteurs. Et comme c'est celui que l'art y représente, il conserve à mes feux une amitié constante.
Il est vrai que ces traits marquent un digne amant, et que vous avez lieu de l'aimer tendrement.
Célie laisse tomber le portrait de Lélie.
Et cependant, il faut... Ah ! Soutiens-moi !
Madame, d'où vous pourrez venir ? Ah bon Dieu, elle pâme ! Hé, vite, holà, quelqu'un !
Scène 3. Célie, la suivante, Sganarelle.
Qu'est-ce donc ? Me voilà !
Ma maîtresse se meurt.
Quoi ? Ce n'est que cela ? Je croyais tout perdu de crier de la sorte. Mais approchons pourtant. Madame, êtes-vous morte ? Aïe, elle ne dit mot.
Je vais faire venir quelqu'un pour l'emporter. Veuillez la soutenir.
Scène 4. Célie, Sganarelle, sa femme. Sganarelle passant la main sur le sein de Célie.
Elle est froide partout et je ne sais qu'en dire. Approchons-nous pour voir si sa bouche respire. Ma foi, je ne sais pas. Mais j'y trouve encore, moi, quelques signes de vie.
La femme de Sganarelle regardant par la fenêtre.
Ah ! Qu'est-ce que je vois ? Mon mari dans ses bras ? Mais je m'en vais descendre. Il me trahit sans doute, et je vais le surprendre.
Il faut se dépêcher de l'aller secourir. Certes, elle aurait tort de se laisser mourir. Aller en l'autre monde est très grande sottise, tant que dans celui-ci l'on peut être de mise.
Sganarelle emporte Célie avec un homme que la suivante amène. Scène 5. La femme de Sganarelle, seule.
Il s'est subitement éloigné de ces lieux, et sa fuite a trompé mon désir curieux. Mais de sa trahison, je ne fais plus de doute, et le peu que j'ai vu me la découvre toute. Je ne m'étonne plus de l'étrange froideur dont je le vois répondre à ma pudique ardeur. Il réserve l'ingrat, ses caresses à d'autres, et nourrit leur plaisir par le gêne des nôtres. Voilà nos maris, le procédé commun. Ce qui leur est permis leur devient importun. Dans les commencements, ce sont toutes merveilles. Ils témoignent pour nous des ardeurs non pareilles. Mais les traîtres bientôt se lassent de nos feux et portent aux autres ce qu'ils doivent chez eux. Ah ! Que j'ai de dépit que la loi n'autorise à changer de mari comme on fait de chemise. Ce serait commode, et j'en sais tel ici, qui, comme moi, ma foi, le voudrait bien aussi. »
Elle ramasse le portrait de Lélie que Célie a laissé tomber.
« Mais quel est ce bijou que le sort me présente ? L'émail en est fort beau. La gravure charmante. Ouvrons !»
Scène 6. Sganarelle et sa femme.
On la croyait morte et ce n'était rien. Il n'en faut plus qu'autant, elle se porte bien. Mais j'aperçois ma femme.
Ô ciel, c'est miniature. Et voilà d'un bel homme une vive peinture.
Sganarelle, à part, et regardant sur l'épaule de sa femme.
Que considère-t-elle avec attention? Ce portrait, mon honneur, ne nous dit rien de bon. D'un fort vilain soupçon, je me sens l'âme émue.
Sa femme, sans l'apercevoir, continue.
Jamais rien de plus beau ne s'offrit à ma vue. Le travail plus que l'or s'en doit encore priser. Oh, que cela sent bon!
Sganarelle, à part.
Ah, j'en tiens!
Sa femme poursuit.
Avouons qu'on doit être ravi. Quand d'un homme ainsi fait, on se peut voir servi. Et que s'il en comptait avec attention, le penchant serait grand à la tentation. Ah, que n'ai-je un mari d'une aussi bonne mine, au lieu de mon pelé, de mon rustre?
Sganarelle, lui arrachant le portrait.
Ah, Matine, nous vous y surprenons en faute contre nous, et diffamant l'honneur de votre cher époux. Donc, à votre calcul, ô ma trop digne femme, monsieur tout bien compté ne vaut pas bien madame. Et de par Belzébuth qui vous puisse emporter, quelle plus rare partie pourriez-vous souhaiter? Peut-on trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce port, que tout le monde admire, ce visage, si propre à donner de l'amour, pour qui mille beautés soupirent nuit et jour. Bref, en tout et partout ma personne charmante n'est donc pas un morceau dont vous soyez contente. Et pour rassasier votre appétit gourmand, il vous faut à son mari le ragoût d'un galant?
J'entends à demi-mot, où va la raillerie? Tu crois par ce moyen?
À d'autres, je vous prie. La chose est avérée, et je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains.
Mon courroux n'a déjà que trop de violence, sans le charger encore d'une nouvelle offense. Écoute, ne crois pas retenir mon bijou, et songe un peu.
Je songe à te rompre le cou. Que ne puis-je aussi bien que je tiens la copie tenir l'original?
Pourquoi?
Pour rien, mamie. Doux objet de mes vœux, j'ai grand tort de crier, et mon front de vos dons vous doit remercier.
Sganarelle, regardant le portrait de Lélie.
Le voilà le beau fils, le mignon de couchette, le malheureux tison de ta flamme secrète, le drôle avec lequel...
Avec lequel? Poursuis.
Avec lequel, te dis-je, et j'en crève d'ennui.
Que me veut donc par là compter ce maître ivrogne?
Tu ne m'entends que trop, madame la carogne. Sganarelle est un nom qu'on ne me dira plus, et l'on va m'appeler Seigneur Cornelius. J'en suis pour mon honneur, mais à toi qui me l'ôtes, je t'en ferai du moins pour un bras ou deux côtes.
Et tu m'oses tenir de semblables discours?
Et tu m'oses jouer de ces diables de tours?
Et quels diables de tours? Parle donc sans rien feindre.
Ah, cela ne vaut pas la peine de se plaindre. D'un panache de cerf sur le front me pourvoir, hélas, voilà vraiment un beau venez-y voir.
Donc, après m'avoir fait la plus sensible offense qui puisse d'une femme exciter vengeance, tu prends d'un fin courroux le vain amusement pour prévenir l'effet de mon ressentiment. D'un pareil procédé, l'insolence est nouvelle. Celui qui fait l'offense est celui qui querelle.
Et la bonne effrontée, à voir se faire maintien, ne la croirait-on pas femme de bien?
Va, poursuis ton chemin, cajole tes maîtresses, adresse-leur tes vœux et fais-leur des caresses. Mais rends-moi mon portrait sans te jouer de moi.
Sa femme lui arrache le portrait et s'enfuit. Sganarelle courant après elle.
Oui, Tu crois m'échapper, je l'aurai malgré toi.
Scène 7. Lélie, Gros René.
Enfin, nous y voici. Mais monsieur, si je l'ose, je voudrais vous prier de me dire une chose.
Eh bien, parle.
Avez-vous le diable dans le corps pour ne pas succomber à de pareils efforts? Depuis 8 jours entiers avec vos longues traites, nous sommes à piquer de chiennes de Mazette, de qui le très maudit nous a tant secoué, que je m'en sens pour moi tous les membres roués. Sans préjudice encore d'un accident bien pire qui m'afflige un endroit que je ne veux pas dire. Cependant, arrivé, vous sortez bien et beau, sans prendre de repos, ni manger un morceau.
Ce grand empressement n'est point digne de blâme. De l'hymen de Célie, on alarme mon âme. Tu sais que je l'adore, et je veux être instruit, avant tout autre soin de ce funeste bruit.
Oui, mais un bon repas vous serait nécessaire, pour s'aller éclaircir, monsieur, de cette affaire. Et votre cœur, sans doute, en deviendrait plus fort pour pouvoir résister aux attaques du sort. J'en juge par moi-même, et la moindre disgrâce, lorsque je suis à jeun, me saisit, me terrasse. Mais quand j'ai bien mangé, mon âme est ferme à tout, et les plus grands revers n'en viendraient pas à bout. Croyez-moi, bourrez-vous, et sans réserve aucune, contre les coups que peut vous porter la fortune. Et pour fermer chez vous l'entrée à la douleur, de 20 verres de vin entourez votre cœur.
Je ne saurais manger.
S'y ferait bien, moi, je meurs. Votre dîner, pourtant, serait prêt tout à l'heure.
Tais-toi, je te l'ordonne.
Oh, quel ordre inhumain!
J'ai de l'inquiétude et non pas de la faim.
Et moi, j'ai de la faim et de l'inquiétude, de voir qu'un sot amour fait toute votre étude.
Laisse-moi m'informer de l'objet de mes vœux, et sans m'importuner, va manger si tu veux.
Je ne réplique point ce qu'un maître ordonne.
Scène 8. Lélie, seule.
Non, non, à trop de peur mon âme s'abandonne. Le père m'a promis, et la fille a fait voir, des preuves d'un amour qui soutient mon espoir.
Scène 9. Sganarelle, Lélie.
Nous l'avons, et je puis voir à l'aise la trogne du malheureux Pandare qui cause ma vergogne. Il ne m'est point connu.
Lélie à part.
Dieu, qu'aperçois-je ici? Et si c'est mon portrait, que dois-je croire aussi?
Sganarelle continue.
Ah, pauvre Sganarelle! À quelle destinée ta réputation est-elle condamnée?
Apercevant Lélie qui le regarde, il se retourne d'un autre côté.
Faux!
Lélie à part.
Ce gage ne peut sans alarmer ma foi être sorti des mains qui le tenaient de moi.
Faut-il que désormais à deux doigts l'on te montre, qu'on te mette en chanson, et qu'en toute rencontre, on te jette au nez le scandaleux affront qu'une femme mal née imprime sur ton front?
Lélie à part.
Me trompais-je?
Atruande, as-tu bien le courage de m'avoir fait cocu dans la fleur de mon âge? Et femme d'un mari qui peut passer pour beau, faut-il qu'un marmousé, un maudit étourneau?
Lélie à part et regardant encore son portrait.
Je ne m'abuse point, c'est mon portrait lui-même.
Sganarelle lui tourne le dos.
Cet homme est curieux.
Lélie à part.
Ma surprise est extrême.
Ah, qui donc en a-t-il?
Lélie à part.
Je le veux accoster. Puis-je? Hé, de grâce un mot.
Sganarelle le fouille encore.
Que me veut-il conter?
Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure? Qui fait dedans vos mains trouver cette peinture?
Sganarelle à part, examinant le portrait qu'il tient, et Lélie.
D'où lui vient ce désir? Mais je m'avise ici, à ma foi, me voilà de son trouble éclairci. Sa surprise à présent n'étonne plus mon homme, c'est mon homme, ou plutôt, c'est celui de ma femme.
Retirez-moi de peine et dites d'où vous vient.
Nous savons, Dieu merci, le souci qui vous tient. Ce portrait qui vous fâche est votre ressemblance. Il était en des mains de votre connaissance. Et ce n'est pas un fait qui soit secret pour nous, que les douces ardeurs de la dame et de vous je ne sais pas si j'ai dans ma galanterie l'honneur d'être connu de votre seigneurie. Mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais, et songez que les nœuds du sacré mariage...
Quoi ? Celle, dites-vous, dont vous tenez ce gage ?
Est ma femme, et je suis son mari.
Son mari ?
Oui, son mari, vous dis-je, et mari, très mari. Vous en savez la cause, et je m'en vais la prendre sur l'heure à ses parents.
Scène 10, Lélie, seule.
Ah, que viens-je d'entendre ? On me l'avait dit, que c'était de tous l'homme le plus mal fait qu'elle avait pour époux. Ah, quand mille serments de ta bouche infidèle ne m'auraient pas promis une flamme éternelle, le seul mépris d'un choix si bas et si honteux devait bien soutenir l'intérêt de mes feux, ingrate et quelque bien. Mais ce sensible outrage, se mêlant aux travaux d'un assez long voyage, me donne tout à coup un choc si violent que mon cœur devient faible et mon corps chancelant.
Scène 11. Lélie, la femme de Sganarelle. La femme de Sganarelle se tournant vers Lélie.
Malgré moi, mon perfide. Hélas, que mal vous presse. Je vous apprends, monsieur, à tomber en faiblesse.
C'est un mal qui m'a pris, assez subitement.
Je crains ici pour l'évanouissement. Entrez dans cette salle, en attendant qu'il passe.
Pour un moment ou deux, j'accepte cette grâce.
Scène 12. Sganarelle est le parent de sa femme.
D'un mari sur ce point, j'approuve le souci. Mais c'est prendre la chèvre un peu bien vite aussi. Et tout ce que de vous je viens d'ouïr contre elle ne conclut point par an qu'elle soit criminelle. C'est un point délicat, et de pareils forfaits, sans les bien avérés, ne s'imputent jamais.
C'est-à-dire qu'il faut toucher au doigt la chose.
Le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Qui sait comment ses mains ce portrait est venu, et si l'homme, après tout, lui peut être connu ? Informez-vous-en donc. Et si c'est ce qu'on pense, nous serions les premiers à punir son offense.
Scène 13. Sganarelle, seul.
On ne peut pas mieux dire. En effet, il est bon d'aller tout doucement. Peut-être sans raison me suis-je en tête mis ces visions cornues. Et les sueurs au front m'en sont trop tôt venues. Par ce portrait enfin dont je suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc par nos soins.
Scène 14. Sganarelle, sa femme, Lélie. Sur la porte de Sganarelle, en parlant à sa femme. Sganarelle poursuit.
Ah ! Que vois-je ? Je meurs ! Il n'est plus question de portrait à cette heure. Voici ma foi la chose en propre originale.
La femme de Sganarelle à Lélie.
Car c'est trop voité, monsieur, et votre mal, si vous sortez si tôt, pourra bien vous reprendre.
Non, non, je vous rends grâce, autant qu'on puisse rendre, de l'obligeant secours que vous m'avez prêté.
Sganarelle à part.
La masque encore après lui fait civilité.
Scène 15. Sganarelle, Lélie. Sganarelle à part.
Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me pourra dire.
Lélie à part.
Ah, mon âme s'émeut et cet objet m'inspire. Mais je dois condamner cet injuste transport et n'imputer mes mots qu'aux rigueurs de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme.
Passant auprès de lui et le regardant.
Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme.
Scène 16. Sganarelle, Célie, regardant s'en aller Lélie. Sganarelle, sans voir Célie.
Ce n'est point s'expliquer en termes ambigus. Cet étrange propos me rend aussi confus que s'il m'était venu des cornes à la tête. »
Il se tourne du côté que Lélie s'en vient d'en aller.
« Allez, ce procédé n'est point du tout honnête. »
Célie à part.
« Quoi ? Lélie apparut tout à l'heure à mes yeux ? Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux ?»
Sganarelle poursuit.
« Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme ! Malheureux bien plutôt de l'avoir, cette infâme, dont le coupable feu trop bien vérifié, sans respect ni demi, nous a cocufié. »
Célie s'approche peu à peu de Sganarelle et attend que son transport soit fini pour lui parler.
« Mais je le laisse aller après un tel indice, et demeure les bras croisés comme un jocrisse. Ah, je devrais du moins lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres, ou crotter son manteau, et sur lui, hautement, pour contenter ma rage, faire au larron d'honneur crier le voisinage.
« Celui qui maintenant de vers vous est venu, et qui vous a parlé ? D'où vous est-il connu ?»«
Hélas, ce n'est pas moi qui le connais, madame, c'est ma femme. »«
Quel trouble agite ainsi votre âme ?»«
Ne me condamnez point d'un deuil hors de saison, et laissez-moi pousser des soupirs à foison. »
D'où peuvent vous venir ces douleurs non communes ?
Si je suis affligé, ce n'est pas pour des prunes, et je le donnerais à bien d'autres qu'à moi, de se voir sans chagrin au point où je me vois. Des maris malheureux, vous voyez le modèle. On dérobe l'honneur aux pauvres Sganarelles. C'est peu que l'honneur dans mon affliction. L'on me dérobe encore la réputation.
Comment ?
Ce damoiseau parlant par révérence me fait cocu, madame, avec toute licence. Et j'ai su par mes yeux avérer aujourd'hui le commerce secret de ma femme et de lui.
Celui qui maintenant...
Oui, oui, me déshonore. Il adore ma femme et ma femme l'adore.
Ah, j'avais bien jugé que ce secret retour ne pouvait me couvrir que quelques lâches tours. Et j'ai tremblé d'abord en le voyant paraître, par un pressentiment de ce qui devait être.
Vous prenez ma défense avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité. Et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyre, bien loin d'y prendre part, n'en ont rien fait que rire.
Est-il rien de plus noir que ta lâche action ? Et doit-on lui trouver une punition ? Dois-tu ne pas croire indigne la vie ? Après t'être souillé de cette perfidie, ô ciel, est-il possible ?
Il est trop vrai pour moi.
Ah, traître, scélérat, âme double et cent fois !
La bonne âme.
Non, non, l'enfer n'a point de gêne. Qu'il ne soit pour ton crime une trop douce peine.
Que voilà bien parlé.
Avoir ainsi traité, et la même innocence, et la même bonté.
Aïe.
Un cœur qui, jamais, n'a fait la moindre chose, a mérité l'affront où ton mépris l'expose.
Il est vrai.
Qui bien loin. Mais c'est trop, et ce cœur ne saurait y songer sans mourir de douleur.
Ne vous fâchez pas tant, ma très chère madame. Mon mal vous touche trop, et vous me percez l'âme.
Mais ne t'abuse pas jusqu'à te figurer qu'à tes plaintes sans fruit, j'en veuille demeurer. Mon cœur pour se venger, c'est ce qu'il faut te faire, et j'y cours de ce pas. Rien ne peut m'en distraire.
Scène 17. Sganarelle, seule.
Que le ciel la préserve à jamais de danger. Voyez quelle bonté de vouloir me venger. En effet, son courroux qu'excite ma disgrâce m'enseigne hautement ce qu'il faut que je fasse. Et l'on ne doit jamais souffrir sans dire mot de semblables affronts, à moins que d'être un vrai sot. Courons donc le chercher cependant qui m'affronte. Montrons notre courage à venger notre honte. Vous apprendrez, maroufle, à rire à nos dépens et sans aucun respect faire cocu les gens.
Il se retourne et en fait trois ou quatre pas.
Doucement, s'il vous plaît. Cet homme a bien la mine d'avoir le sang bouillant et l'âme un peu mutine. il pourrait bien, mettant à front dessus à front, charger de bois mon dos, comme il a fait mon front. Je hais de tout mon cœur les esprits colériques, et porte grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point battant de peur d'être battu, et l'humeur débonnaire est ma grande vertu. Mais mon honneur me dit qu'une telle offense, il faut absolument que j'en prenne vengeance. Ma foi, laissons-le dire autant qu'il lui plaira, au diantre qui pourtant rien du tout en fera. Quand j'aurai fait le brave, et qu'un fer pour ma peine m'aura d'un vilain coup traversé la bedaine, que par la ville ira le bruit de mon trépas, dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras? La bière est un séjour par trop mélancolique, et trop malsain pour ceux qui craignent la colique. Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé. Quel mal cela fait-il? La jambe en devient-elle plus tortue après tout, et la taille moins belle? Peste soit qui premier trouva l'invention de s'affliger l'esprit de cette vision, et d'attacher l'honneur de l'homme le plus sage aux choses que peut faire une femme volage. Puisqu'on tient à bon droit tout crime personnel, que fait là notre honneur pour être criminel? Des actions d'autrui, l'on nous donne le blâme. Si nos femmes, sans nous, ont un commerce infâme, il faut que tout le mal tombe sur notre dos. Elles font la sottise, et nous sommes les sots. C'est un vilain abus, et les gens de police nous devraient bien régler une telle injustice. N'avons-nous pas assez des autres accidents qui nous viennent happer en dépit de nos dents? Les querelles, les procès, faim, soif et maladie, trouble-t-il pas assez le repos de la vie, sans aller de surcroît aviser, sottement, de se faire un chagrin qui n'a nul fondement? Moquons-nous de cela, méprisons les alarmes, et mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Si ma femme a failli, qu'elle pleure bien fort, mais pourquoi moi pleurer, puisque je n'ai point tort? En tout cas, ce qui peut m'ôter ma fâcherie, c'est que je ne suis pas seul de ma confrérie. Voir cajoler sa femme et n'en témoigner rien se pratique aujourd'hui par force gens de bien. N'allons donc point chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. L'on m'appellera sot de ne me venger pas, mais je le serai fort de courir au trépas.
Mettant la main sur son estomac.
Je me sens là, pourtant, remuer une bile qui me veut conseiller quelque action virile. Oui, le courroux me prend. C'est trop être poltron. Je veux résolument me venger du larron. Déjà, pour commencer dans l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout qu'il couche avec ma femme.
Scène 18, Gorgibus, Célie, la suivante.
Oui, je veux bien subir une juste loi. Mon père, disposez de mes vœux et de moi. Faites quand vous voudrez signer cet hyménée. À suivre mon devoir, je suis déterminée. Je prétends gourmander mes propres sentiments et me soumettre en tout à vos commandements.
Ah, voilà qui me plaît de parler de la sorte, parbleu! Si grande joie à l'heure me transporte, que mes jambes sur l'heure cambrioleraient si nous n'étions point vus les gens qui s'en riraient. Approche-toi de moi. Viens, ça que je t'embrasse. Une belle action n'a pas mauvaise grâce. Un père, quand il veut, peut sa fille baiser sans que l'on ait sujet de s'en scandaliser. Va, le contentement de te voir si bien né me fera rajeunir de 10 fois une année.
Scène 19, Célie, la suivante.
Ce changement m'étonne.
Et lorsque tu sauras par quel motif j'agis, tu m'en estimeras.
Cela pourrait bien être.
Apprends donc que Lélie a pu blesser mon cœur par une perfidie et qu'il était en ces lieux sans...
Mais il vient à nous.
Scène 20, Célie, Lélie, La suivante.
Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins en cette place.
Quoi ? Me parler encore ? Avez-vous cette audace ?
Il est vrai qu'elle est grande, et votre choix est tel qu'à rien vous reprocher je serai criminel. Vivez, vivez, contente, et bravez ma mémoire, avec le digne époux qui vous comble de gloire.
Oui, traître, j'y veux vivre, et mon plus grand désir, ce serait que ton cœur en eût du déplaisir.
Qui rend donc contre moi ce courroux légitime ?
Quoi ? Tu fais le surpris ? Et demande ton crime ?
Scène 21, Célie, Lélie, Sganarelle, la suivante. Sganarelle entre armée.
Guerre, guerre mortelle à ce larron d'honneur, qui sans miséricorde a souillé notre honneur.
Tourne, tourne les yeux sans me faire répondre.
Ah, je vois.
Cet objet suffit pour te confondre.
Mais pour vous obliger bien plutôt à rougir.
Ma colère à présent est en état d'agir. Dessus ces grands chevaux est monté mon courage. Et si je le rencontre, on verra du carnage. Oui, j'ai juré sa mort. Rien ne peut l'empêcher. Où je le trouverai, je le veux dépêcher. Au beau milieu du cœur, il faut que je lui donne.
À qui donc en veut-on ?
Je n'en veux à personne.
Pourquoi ces armes-là ?
C'est un habillement que j'ai pris pour la pluie.
Sganarelle à part.
Ah, quel contentement j'aurais à le tuer. Prenons-en le courage.
Hé !
Je ne parle pas.
Sganarelle à part, se donnant des coups de poing sur l'estomac et des soufflets pour s'exciter.
Ah, poltron dont j'enrage ! Lâche, vrai cœur de poule !
Il doit en dire assez. Cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés.
Oui, je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable qui jamais d'un amant puisse outrager la foi.
Sganarelle à part.
Que n'ai-je un peu de cœur ?
Ah ! Cesse devant moi, traître, de ce discours, l'insolence cruelle.
Sganarelle ! Tu vois qu'elle prend ta querelle. Courage, mon enfant, sois un peu vigoureux. Là, hardi, et tâche à faire un effort généreux en le tuant tandis qu'il tourne le derrière.
Lélie, faisant deux ou trois pas sans dessein, fait retourner Sganarelle qui s'approchait pour le tuer.
Puisqu'un pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur me montrer satisfait et l'applaudir ici du beau choix qu'il a fait.
Oui, oui, mon choix est tel qu'on n'y peut rien reprendre.
Allez, vous faites bien de le vouloir défendre.
Sans doute, elle fait bien de défendre mes droits. Cette action, monsieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre. Et si je n'étais sage, on verrait arriver un étrange carnage.
D'où vous naît cette plainte ? Et quel chagrin brutal ?
Suffit. Vous savez bien où le bois me fait mal. Mais votre conscience et le soin de votre âme, vous devrez mettre aux yeux que ma femme est ma femme, et vouloir à ma barbe en faire votre bien, que ce n'est pas du tout agir en bon chrétien.
Un semblable soupçon est bas et ridicule. Allez dessus ce point, n'ayez aucun scrupule. Je sais qu'elle est à vous. Et bien loin de brûler.
Ah, qu'ici tu sais bien, traître, dissimulé.
Quoi, me soupçonnez-vous d'avoir une pensée de qui son âme est sujet de se croire offensée ? De cette lâcheté vous voulez me noircir ?
Parle, parle à lui-même, il pourra t'éclaircir.
Vous me défendez mieux que je ne saurais faire, et du biais qu'il faut vous prenez cette affaire.
Scène 22. Célie, Lélie, Sganarelle, sa femme, la suivante. La femme de Sganarelle à Célie.
Je ne suis point d'humeur à vouloir contre vous faire éclater, madame, un esprit trop jaloux. Mais je ne suis point dupe et je vois ce qui se passe. Il est de certains feux de fort mauvaise grâce. Et votre âme devrait prendre un meilleur emploi que de séduire un cœur qui doit n'être qu'à moi.
La déclaration est assez ingénue. Sganarel à sa femme.
L'on ne demandait pas qu'Arogne ta venue. Tu la viens quereller lorsqu'elle me défend, et tu trembles de peur qu'on t'ôte ton galant.
Allez, ne croyez pas que l'on en est en vie. Célie, se tournant vers Lélie, tu vois, si c'est mensonge, j'en suis fort ravie.
Que veut-on me conter?
Ma foi, je ne sais pas quand on verra finir ce galimatias. Déjà, depuis longtemps, je tâche à le comprendre. Et si plus je l'écoute, et moins je puis l'entendre. Je vois bien à la fin que je m'en dois mêler.
La suivante, allant se mettre entre Lélie et sa maîtresse.
Répondez-moi par ordre et me laissez parler.
La suivante, à Lélie.
Vous, qu'est-ce qu'à son cœur peut reprocher le vôtre?
Que l'infidèle a pu me quitter pour un autre. Que lorsque sur le bruit de son hymen fatal, j'accours tout transporté d'un amour sans égal, dont l'ardeur résistait à se croire oubliée, mon abord en ces lieux la trouve mariée.
Mariée? À qui donc?
Lélie montrant Sganarelle.
À lui.
Comment à lui?
Oui, da.
Qui vous l'a dit?
C'est lui-même aujourd'hui.
La suivante, à Sganarelle.
Est-il vrai?
Moi, j'ai dit que c'était à ma femme que j'étais marié.
Dans un grand trouble d'âme, tantôt de mon portrait je vous ai vu saisi.
Il est vrai, le voilà.
Vous m'avez dit aussi que celle aux mains de qui vous aviez pris ce gage était liée à vous des nœuds du mariage.
Sganarelle, montrant sa femme.
Sans doute, et je l'avais de ses mains arrachées, et n'eusse pas sans lui découvert son péché.
Que me viens-tu conter par ta plainte importune? Je l'avais sous mes pieds rencontré par fortune. Et même quand après ton injuste courroux.
La femme de Sganarelle, montrant Lélie.
J'ai fait, dans sa faiblesse, entrer monsieur chez nous. Je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture.
C'est moi qui du portrait ai causé l'aventure. Et je l'ai laissé choir en cette pâmoison. Célie, à Sganarelle. Qui m'a fait par vos soins remettre à la maison.
Vous voyez que sans moi vous y seriez encore, et vous aviez besoin de mon peu des labors.
Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant? Mon front là sur mon âme eut bien chaude pourtant.
Ma crainte toutefois n'est pas trop dissipée, et d'où que soit le mal, je crains d'être trompé.
Et mutuellement croyons-nous gens de bien, je risque plus du mien que tu ne fais du tien. Accepte sans façon le marché qu'on propose.
Soit, mais gare le bois si j'apprends quelque chose.
Célie, à Lélie, après avoir parlé bas, ensemble.
Ah, Dieu, s'il en est ainsi, qu'est-ce donc que j'ai fait? Je dois de mon courroux appréhender les faits. Oui, vous croyant sans foi, j'ai pris pour ma vengeance le malheureux secours de mon obéissance. Et depuis un moment, mon cœur vient d'accepter un hymen que toujours j'eus lieu de rebuter. J'ai promis à mon père, et ce qui me désole. Mais je le vois venir.
Il me tiendra parole.
Scène 23. Célie, Lélie. Gorgibus, Sganarelle, sa femme, la suivante.
Monsieur, vous me voyez en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux, et mon ardent amour verra comme je crois la promesse accomplie qui me donna l'espoir de l'hymen de Célie.
Monsieur, que je revois en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux, et dont l'ardent amour verra, que vous croyez, la promesse accomplie qui vous donna l'espoir de l'hymen de Célie. Très humble serviteur à votre seigneurie.
Quoi? Monsieur, est-ce ainsi qu'on trahit mon espoir?
Oui, monsieur, c'est ainsi que je fais mon devoir. Ma fille en suit des lois.
Mon devoir m'intéresse. Mon père a engagé vers lui votre promesse.
Est-ce répondre en fille à mes commandements? Tu te démens bientôt de tes bons sentiments. Pour Valère tantôt. Mais j'aperçois son père. Il vient assurément pour conclure l'affaire.
Scène Scène dernière, Célie, Lélie, Gorgibus, Sganarelle, sa femme, Vilebrequin, la suivante.
Qui vous amène ici, seigneur Vilebrequin ?
Un secret important que j'ai su ce matin, qui rompt absolument ma parole donnée. Mon fils, dont votre fille acceptait l'hyménée, sous des liens cachés trompant les yeux de tous, vit depuis 4 mois, avec Lise en époux. Et comme des parents le bien et la naissance m'ôtent tout le pouvoir d'en casser l'alliance, je vous viens...
Brisons-la, si sans votre congé, Valère, votre fils ailleurs s'est engagé. Je ne vous puis sceller que ma fille Célie, dès longtemps par moi-même, est promise à Lydie, et que Riche, en vertu de son retour aujourd'hui, m'empêche d'agréer un autre époux que lui.
Un tel choix me plaît fort.
Et cette juste envie d'un bonheur éternel va couronner ma vie.
Allons choisir le jour pour se donner la foi.
A-t-on mieux cru jamais être cocu que moi ? Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. Dans cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien, et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien.